Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, alors que les Européens commencent à retrouver un début de liberté de mouvement, on se penche dans Accent d'Europe sur la violence de ces derniers mois, violence de la maladie, du confinement et parfois des deux à la fois. L'Italie, qui compte désormais plus de 30 000 victimes, vient tout juste d'autoriser les rassemblements pour les enterrements. C'est dire la violence du deuil des familles qui ne pouvaient dire au revoir à leurs morts. Récit signé Cécile de Barge.
S'il est une image de l'épidémie de Covid-19 que l'Italie mettra probablement du temps à oublier, c'est cette colonne de camions militaires qui s'éloigne du cimetière de Bergame. À bord, des cercueils, certains emmenés au crématorium de Modène, d'autres à Parme, Plaisance et plusieurs autres villes de la région. C'était à la mi-mars, le crématorium de Bergame ne tenait plus le rythme des morts, les médecins non plus, comme l'explique Salvatore Azzaro, arrivé à l'hôpital Papa Giovanni 23 de la ville, en janvier, pour sa première année d'internat en anesthésie et réanimation.
Il y a une génération entière de Bergame qui a été mise à genoux. Leurs proches ne pouvaient pas venir parce qu'ils étaient eux-mêmes en quarantaine ou bien hospitalisés dans d'autres services.
Pendant de longues semaines, les Italiens meurent par milliers, seuls. Le professeur Giuseppe Remuzzi est directeur du centre de recherche en pharmacologie Mario Negri de Milan.
Moi, je pense que cette maladie est pire que la grippe espagnole de 1918 qui a fait 50 millions de morts. Et je pense que pour retrouver quelque chose de semblable, il faut remonter au 19e siècle et l'épidémie de choléra, ou bien aux épidémies de peste des années précédentes.
Dans quelques mois, quelques années, à quel autre événement traumatique sera comparée l'épidémie de Covid-19 dans le nord du pays où se concentrent les deux tiers des cas? Le professeur Giuseppe Remuzzi a sa réponse.
Nous avons eu la chance de naître après la guerre. Et donc nous avons entendu parler des traumas de ceux qui voyaient mourir leurs proches, leurs amis, les personnes qu'ils aimaient. Et ils les voyaient mourir les uns après les autres. Tel ami est mort, tel autre ami aussi, cet ami-là est mort aussi. Et ces choses-là, on ne les avait jamais vécues. On les a vécues à travers les récits de ses parents ou grands-parents qui ont vécu une partie de la Seconde Guerre mondiale.
Pour les proches des victimes, une question reste sans réponse. Comment faire le deuil dans ce contexte? Giuseppe Barbaglio est psychothérapeute à Codogno, l'une des 11 premières zones rouges d'Italie, confinée depuis le 21 février. Par Skype ou par téléphone, il a reçu de nombreux appels de personnes endeuillées, incapables de réaliser la mort de leurs proches. Certains, en pleurs, avaient relégué les habitations des victimes au rang de sanctuaires intouchables.
Les lunettes sont sur la table de chevet depuis 2 mois. Le lit reste défait. Comme ça, si le papa revient à la maison, il retrouvera tout comme il l'avait laissé. Il y a tout un tas de pensées irrationnelles qui naissent et créent d'énormes douleurs.
D'abord, il y a la brutalité avec laquelle cette maladie est arrivée dans les vies de ses patients. Jusqu'au mois de décembre, rares étaient ceux qui avaient entendu parler du Covid-19. Puis, en quelques mois, il emporte des dizaines de milliers de vies, impose des normes sanitaires drastiques, réduit le temps de l'acceptation de la maladie à quelques jours, au pire, quelques semaines au mieux.
On faisait ses adieux en 2 minutes dans l'ambulance, au moment où votre proche était emmené on ne sait où par des infirmiers, qui pour des raisons évidentes de santé et d'hygiène étaient ultra protégés par des dispositifs de protection individuelle, mais qui à ce moment précis ne pouvaient plus être reconnus comme des infirmiers, mais presque comme des personnages lunaires.
Dès le 21 février à Codogno et le 8 mars dans le reste du pays, les enterrements ont été interdits pour ne pas créer de rassemblement. Cela a créé des trous béants dans le processus de deuil, estime Giuseppe Barbaglio.
Le rite funéraire a été créé d'un point de vue social, anthropologique, sociologique, pour donner une limite à la douleur d'une certaine manière, et on a été dépouillé par la force des choses de ce rite funéraire. Et cela a créé un autre énorme vide. Je n'ai pu ni accompagner le parcours de fin de vie de mon proche, ni lui donner une sépulture digne, lui rendre une dignité.
Depuis la phase 2, qui a commencé le 4 mai en Italie, les enterrements sont de nouveau autorisés en petit comité.
Et les plus anciens n'ont pas été seulement les plus touchés statistiquement par la maladie, ils sont aussi la cible de critiques lorsqu'ils sont dans la rue. C'est ce qui transparaît dans une étude menée en Suisse auprès des plus de 65 ans. 6 personnes sur 10 s'estiment injustement traitées, Jérémy Lanche.
Même si le gouvernement suisse n'a pas appliqué de confinement strict comme en France, les autorités n'ont cessé de demander aux plus âgés de rester chez eux. Mais pour cette classe d'âge, sortir faire ses courses, c'est parfois moins s'exposer au virus que s'exposer à des remarques désobligeantes. Christian Maggiori est professeur à la Haute École de Travail Social de Fribourg.
Des participants rapportent avoir été agressés verbalement dans la rue ou encore dans les magasins par des inconnus qui leur ont crié de rester à la maison, de ne pas se balader comme si rien n'était, alors que les plus jeunes, justement, doivent se sacrifier et rester enfermés chez eux.
3 personnes interrogées sur 5 ont le sentiment d'être traitées de manière différente et 1 sur 5 d'y avoir été traitées injustement à cause de son âge. 1/3 des sondés estiment aussi que la pandémie va conduire à une plus grande stigmatisation des aînés. En creux, il y a le sentiment que la solidarité vantée depuis le début de la pandémie est réservée aux soignants. Mais ce serait oublier que les plus de 65 ans représentent 1,6 million de personnes en Suisse, près de 19% de la population. Prosenectute rappelle que le rapport à la société est au moins aussi important que pour les autres tranches d'âge. Les seniors consomment, ils gardent les enfants, font du bénévolat et ils travaillent même. Des milliers de volontaires sont venus renforcer les équipes médicales des hôpitaux suisses pour lutter contre le Covid-19, dont de nombreux médecins retraités.
La période de confinement a été une catastrophe pour toutes les femmes victimes de violences conjugales. En Pologne, on compte 400 à 500 morts par an et 250 000 appels à l'aide. Pour toutes celles qui ne pouvaient prétexter une sortie pour déposer plainte, une jeune lycéenne a créé un faux site de vente de produits cosmétiques en ligne. Une connexion qui vaut appel à l'aide. Les explications à Varsovie de Thomas Giraudoux.
C'est en découvrant le dispositif mis en place en Espagne et en France que Krecha Pachko, 17 ans, a eu l'idée de créer il y a un mois sa fausse page de commerce en ligne sur Facebook. À Madrid comme à Paris, une femme victime de violences conjugales peut se rendre dans une pharmacie et demander un masque 19. Le pharmacien comprend alors pourquoi elle est venue et doit avertir la police.
J'étais très déçue que le même type d'initiative n'existe pas en Pologne, donc je me suis dit que je devais agir. Au début, c'était juste une publication sur mon Facebook à l'attention de mes amis, qu'ils et elles sachent que je suis là pour eux et qu'ils pouvaient m'appeler. Je pensais recevoir un ou deux messages, mais en fait, ma publication a beaucoup été partagée. Alors j'ai décidé de rassembler une équipe autour de moi et nous avons créé la fausse page de vente en ligne.
Au premier abord, on n'y voit que du feu, les crèmes, savons et autres gels sont très bien présentés, mais leurs descriptions ont un sens caché, un gel à l'arnica parfait pour les abrasions et les contusions après un week-end d'activité, un savon à la lavande qui apaise les nerfs et permet de mieux dormir. Une consommatrice peut envoyer un message privé à l'attention de la marque. Si elle est intéressée par un produit, c'est qu'elle a besoin d'aide. Si elle veut être livrée au plus vite, elle donne son adresse, l'information est transmise à la police locale qui doit intervenir.
Au début, c'est moi qui recevais ces messages, qui devais aider ces femmes. C'était vraiment très éprouvant, parce que ce n'est pas du tout comme les gens pensent. Juste une conversation et quelques phrases échangées, non. C'est vraiment très difficile de lire ces mots, de comprendre comment ces femmes se sentent.
Dépassée par le nombre d'appels à l'aide, Krecha Pachko s'est très vite rapprochée du Centrum Praw Kobiet, le centre des droits des femmes, qui aide les victimes de violences conjugales. Les psychologues de l'association ont pris le relais, ils répondent aux messages envoyés sur la page. Johanna Xera Iskandar est la porte-parole du centre.
J'ai découvert la page sur mon mur Facebook et je me suis dit « Waouh, c'est une super idée !» Les victimes se sentent en sécurité et elles peuvent raconter ce qui leur arrive. arrive, dire qu'elles souffrent, demander de l'aide, parfois même appeler la police. En ce moment, certaines femmes ne peuvent même pas sortir de chez elles pour aller à la pharmacie. Donc cette initiative est très bonne, car quasiment tout le monde est sur Facebook. Et puis cette fausse page de vente de produits cosmétiques ressemble à un vrai site de e-commerce. Ça n'attire pas l'attention du conjoint violent. C'est tellement bien fait que parfois des personnes veulent sincèrement acheter les produits.
Depuis le lancement de la page, il y a un mois, le Centrum Praw Kobiet a fourni une aide psychologique et juridique à une centaine de personnes.
Si la victime est en sécurité durant, disons, une demi-heure parce que l'auteur des violences est sorti, alors nous l'appelons et elle peut nous décrire longuement sa situation. Certaines fois, c'était si grave que nous avons appelé la police et l'intervention a abouti à l'isolement de l'homme violent.
L'initiative de Krzysztof Paszko arrive à point nommé. Depuis la mi-mars et le début du confinement en Pologne, le Centre des droits des femmes enregistre 50% d'appels en plus sur sa ligne d'assistance téléphonique. Anna Głogowska-Baltsejak dirige le centre de la ville de Łódź.
Avant le confinement, les femmes qui venaient nous voir pour obtenir une aide juridique ou psychologique mentaient à leurs conjoints violents. Elles leur disaient qu'elles allaient chez le médecin ou faire quelques courses. Bien sûr, ce genre d'excuses ne fonctionne pas actuellement. Donc c'est encore plus difficile d'obtenir de l'aide. Parfois, le seul contact possible avec l'extérieur, c'est via le téléphone, les messages. Mais ils sont souvent lus ou écouté par le conjoint violent.
C'est pourtant en cette période très éprouvante pour les victimes de violences conjugales qu'une éclaircie est venue. Au Parlement, les députés ont adopté à une écrasante majorité un projet de loi visant à isoler plus rapidement l'auteur des violences.
Avant cette loi, c'était très difficile de forcer un homme violent à quitter le foyer. Les procédures civiles duraient trop longtemps, quelquefois 5 mois, parfois 9. Une fois que la nouvelle loi sera appliquée, la police pourra immédiatement donner l'ordre à la personne violente de quitter le domicile durant 2 semaines. Ça change tout, selon moi. Alors oui, 2 semaines, ça ne suffit pas pour débuter une nouvelle vie. Mais cela laisse le temps d'obtenir une aide médicale, de chercher un travail. C'est un bon début. Et en plus, cette mesure d'éloignement forcé peut être prolongée.
Anna Głogowska-Baltsejak souhaite aussi que les hôtels accueillent des victimes de violences conjugales. Ils ont rouvert depuis 10 jours en Pologne et ont évidemment, en ce moment, beaucoup de chambres libres.
Pendant le confinement, les violences intrafamiliales, celles dirigées contre les femmes, mais aussi les enfants, ont explosé en Espagne, plus 48%, une source de préoccupation dans un pays qui s'est attaqué de front au problème. En Espagne, Diane Cambon.
Le gouvernement socialiste et en particulier le ministère pour l'égalité, dirigé par une féministe issue du parti de gauche Podemos, ont redoublé les efforts pour lutter contre ces violences durant cette période sensible. Dès les premiers jours du confinement, des mesures ont été prises pour que les femmes et enfants maltraités puissent donner l'alerte depuis leur domicile via un numéro de téléphone gratuit disponible 24 heures sur 24. Des hôtels ont été aussi réquisitionnés pour héberger les femmes et leur progéniture. Les pharmacies ont également servi de relais. Il suffit de demander le masque 19, un nom de code, pour déclencher le dispositif d'aide. À ce moment-là, psychologues et forces de sécurité sont contactés par le pharmacien qui donnera les informations concernant la personne qui demande de l'aide. Les interventions policières n'ont pas cessé durant toutes ces semaines de paralysie économique et sociale. Le ministère de l'Intérieur a annoncé il y a quelques jours que la police avait effectué depuis le début du confinement 153 000 interventions et que 4 142 personnes avaient été placées en détention et doivent passer devant le parquet spécialisé dans les affaires de violences conjugales. Ces tribunaux spécifiques sont un des points forts de la loi intégrale contre la violence du genre, adoptée en 2004. La victime qui a déposé plainte est alors prise en charge par un policier qui la suivra via un téléphone d'urgence GPS. C'est lui qui décidera de mettre en place une protection à la carte selon le profil de l'agresseur. Celui-ci pourrait être muni d'un bracelet électronique relié au commissariat en cas d'interdiction de s'approcher de sa conjointe, dictée par la justice. Autre spécificité de cette loi, un médecin, un voisin ou un policier peuvent déposer plainte pour la victime qui trop souvent n'ose pas le faire elle-même. Durant ces semaines de confinement, les autorités ont donc intensifié cette campagne de prévention afin de mobiliser le voisinage. Pas question pour le ministre de l'Intérieur, l'ancien juge Fernando Grande Marlaska, que le Covid-19 ne freine la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants.
Et les animaux dans tout ça, pas forcément un point de détail quand on sait à quel point la pandémie est aussi liée à notre consommation animale et notre mode d'élevage. Certaines associations veulent donc saisir l'occasion de cette crise sanitaire pour plaider la cause du bien-être animal. Moins de viande dans notre assiette ou plus de viande du tout. Les militants s'activent à Londres, Marie Billon.
Qui n'a pas utilisé l'application Zoom pour participer à des réunions de travail ou parler avec sa famille pendant le confinement? L'association de défense des animaux, PETA, a décidé d'en profiter pour faire passer son message. Jennifer White est l'une de ses représentantes au Royaume-Uni.
C'est PETA États-Unis qui a lancé ces fonds d'écran Zoom pour aider les gens qui travaillent à la maison à défendre les animaux. On peut choisir un message pro-adoption ou contre les tests médicaux effectués sur les animaux, pro-vegan ou anti-fourrure. Ils sont mignons, marrants et légers.
Il y a la photo d'un petit lapin dans l'herbe, d'un dauphin sautant hors de l'eau ou encore le dessin d'un renne se prenant en photo avec une perche selfie. Pour PETA, cette crise sanitaire a permis de faire circuler son message de défense des animaux de manière différente. Elle a commencé dès le mois de mars avec les achats en panique dans les supermarchés.
Les produits sur lesquels les gens se sont rués étaient tous véganes. Le riz, les flageolets, les lentilles, les pois chiches ou tomates en conserve. Les gens mangent vegan sans le savoir et donc c'est facile de passer à l'étape suivante.
Devenir vegan pour de bon, dit Jennifer. Mais PETA n'est pas la seule association de défense des animaux qui a profité de la crise pour faire passer son message. Juliette Galletly a créé l'association Viva en 1994.
La pandémie nous a montré qu'on doit commencer à respecter la nature, sinon elle se vengera comme elle le fait aujourd'hui. Je crois qu'avant le Covid-19, les gens ne savaient pas que les humains pouvaient être infectés par des virus ou des bactéries provenant d'animaux. Des virus qui peuvent muter parce que les bêtes sont exploitées. Et quand l'élevage se fait en batterie, par exemple, la maladie peut se transmettre entre les animaux. Si les conditions étaient plus naturelles, si le virus devenait hautement pathogène au point de tuer son hôte originel, il ne se diffuserait pas et disparaîtrait.
Viva est comme PETA, une organisation qui promeut le véganisme. Ce n'est pas le cas de l'association Eating Better, Manger Mieux. Son but est de réduire de 50% la consommation de viande et de produits laitiers au Royaume-Uni d'ici 2030. Mark Breen, l'un de ses représentants, est aussi contre l'élevage en batterie. Ce qu'il promeut, c'est consommer moins de viande pour en manger mieux. Mais la crise du coronavirus, sanitaire comme économique, n'est pas propice à cela.
Les ventes de viande de basse qualité ont beaucoup augmenté. Ça se comprend puisque les gens sont inquiets pour leurs revenus en ce moment. Mais la viande bon marché ne reflète pas le véritable coût de sa production. Quand on achète un poulet à 3 livres sterling, ça ne prend pas en compte les revenus des fermiers, le bien-être animal, la pollution au nitrogène ou à l'ammoniac que génère l'élevage industriel et les conséquences que cela a sur la terre, l'air et l'eau.
Une prise de conscience qui mettra sans doute un peu plus de 2 mois, le temps moyen d'un confinement, avant de s'imposer.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Laurie Plisson. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission d'Accent d'Europe pour parler du lourd tribut payé par la scène artistique.